voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Si vous nous rejoignez, nous parlons de la face cachée du chocolat aujourd'hui dans C'est pas du vent à l'occasion de la publication d'une étude réalisée par les deux fondateurs du BASIC, le Bureau d'analyse sociétale et d'information citoyenne, Christophe Alliot et Sylvain Lee, qui sont nos invités. Vous avez étudié deux pays, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, et le Pérou. Alors pour la Côte d'Ivoire qui fournit 40% des fèves qui circulent dans le monde, nous avons vu dans la première partie de l'émission que l'avenir de la filière semble compromis, menacé en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Christophe Alliot, pourquoi en quelques mots?
Alors cette filière, elle est menacée parce que les producteurs ne gagnent pas assez. Du coup, on est face à une fuite en avant parce qu'ils doivent essayer de s'en sortir. Alors ils essaient de s'en sortir parfois en déforestant, parfois en étant obligés de faire d'autres activités. Parfois aujourd'hui, on le voit aussi de plus en plus en passant à d'autres cultures, c'est-à-dire les VA, c'est-à-dire l'huile de palme et d'autres choses. Et du coup, on est légitime de se poser la question d'ici 15-20 ans, sachant que c'est à peu près ce que disent les rapports de l'Union européenne de ce qui reste de couverts forestiers encore exploités, que se passera-t-il dans le pays?
Oui, alors il y a plein de problèmes, hein, notamment, on l'a dit pas mal dans la première partie de l'émission, mais il faut y revenir, je pense, le fait que l'essentiel des producteurs vivent sous le seuil de pauvreté et se trouvent en situation d'insécurité alimentaire. C'est quand même paradoxal. Vous pointez trois conséquences sociales et environnementales, finalement, l'insécurité alimentaire, la déforestation et le travail des enfants. Alors l'insécurité alimentaire, comment ça s'explique? Parce qu'ils n'arrivent pas à vivre décemment de leur production?
Ce qui est important à rappeler, mais ça les habitants en Côte d'Ivoire le savent, ils ont toujours un petit plan de la culture vivrière en plus du cacao. Ils font pas 100% de cacao, mais même ce plan qu'ils ont à côté, cette petite parcelle n'est pas suffisante pour faire face à leurs besoins d'alimentation. Du coup, ils ont besoin d'une rémunération qui leur permet d'acheter en plus. Et puis n'oublions pas qu'il y a les périodes de soudure qui sont excessivement importantes. C'est souvent là que se passent ces problèmes de sécurité alimentaire.
Et le travail des enfants alors, Sylvain Lee? Il y a beaucoup d'enfants dans les productions de cacao en Côte d'Ivoire?
Alors, oui, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Dans l'agriculture familiale et dans différentes filières, que ce soit en Afrique ou ailleurs, il y a un travail des enfants qui est, je dirais, traditionnel, culturel. Les enfants aident leurs parents dans l'agriculture, dans leurs tâches agricoles, on va dire.
Enfin, on voit dans votre rapport quand même des enfants avec des machettes, des enfants qui épandent des produits chimiques. Ce sont des conditions relativement dangereuses pour des enfants.
C'est ça, c'est qu'il y a... Il y a travail des enfants et travail des enfants, et il se trouve que ce qu'on a constaté, en tout cas ce qu'on a documenté au travers des études qu'on a pu récupérer pour cette étude-là, c'est que la plupart des enfants qui travaillent en Côte d'Ivoire aujourd'hui le font dans des conditions dangereuses, c'est-à-dire qu'elles sont amenées à manipuler, vous le disiez, des machettes, elles sont aussi amenées à manipuler des produits chimiques, intrants, pesticides. Le travail n'est pas facile, hein, c'est lourd le cacao, enfin les sacs de cacao sont lourds, donc c'est des conditions qui mettent directement en péril leur santé. Sans parler du fait qu'effectivement il y a aussi la question de l'intensité du travail, c'est-à-dire que ces enfants-là n'ont pas le temps d'aller à l'école ou de se cultiver, et du coup c'est leur avenir qui est compromis quelque part aussi, quoi.
Alors l'État ivoirien, Christophe Alliot, a pris des dispositions, là aussi, contre le travail des enfants.
Oui, exactement, et ça fait un lien avec ce qu'on disait un petit peu plus tôt dans l'émission, c'est que toutes ces dispositions, c'est pour nous ce qui fait partie de ces coûts cachés, puisque ces dispositions, ils sont payés par l'État ivoirien sur les deniers publics, ou parfois par des ONG, par des programmes internationaux, et du coup on voit beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre, mais pour justement essayer de venir compenser un problème de la filière elle-même, la façon dont elle fonctionne, et c'est pas la filière qui paye pour ça.
Il y a une coopérative qui permet à ses producteurs de vivre correctement de leur travail. Elle se trouve à Mbrimbo, à une heure de route d'Abidjan. Tous les habitants sont membres de cette coopérative, très impliqués dans la filière du commerce équitable depuis sa création en 2008. Ils espèrent, ces habitants, que leur exemple pourra servir aux autres communautés alentour. C'est un reportage d'Isidore Quadio.
Nous sommes dans le village de Mbrimbo, dans le département de Tiassalé, situé à 135 km d'Abidjan. Ici, c'est toute la communauté villageoise qui a adopté le commerce équitable. La société coopérative équitable du Bandaman, c'est le nom de la coopérative, est citée comme un modèle dans le secteur. Elle a non seulement réussi à obtenir sa certification internationale dans le domaine, mais aujourd'hui, elle vend ses produits à un marché international très regardant de ses méthodes de production. Estelle Conan est la gérante de cette coopérative.
Depuis la création, il y a eu plusieurs formations au niveau des producteurs concernant les produits naturels pour leur aider à à améliorer le rendement dans un premier temps. Donc, il y a eu des études, des formations pour la fabrication des biopesticides, voilà, qui ont quand même permis aux producteurs, dans un premier temps, à régler leurs problèmes d'insectes au niveau de leur plantation. Aujourd'hui, nous ne déforestons pas. C'est des parcelles qui avaient servi à la culture du cacao et délaissées, que nous avons laissées en conversion et que nos planteurs réutilisent pour faire leur plantation de cacao bio.
Nous sommes dans une plantation de cacao. Aujourd'hui, la coopérative reçoit la visite de membres de l'Institut africain pour le développement économique et social, INADES. Assez régulièrement, cette structure se rend à Mbrimbo pour un suivi et une formation au respect du cahier de charge de la production. Madame Pauline Zéhi, chargée de programme à INADES, n'hésite pas à se rendre dans les plantations, parfois pour inspection.
En ce qui concerne la coopérative équitable du Bandama, elle a été accompagnée à respecter le cahier de charge de la certification biologique de l'Union européenne. Et je peux dire que le principe fondamental, c'est la non-utilisation de produits chimiques. C'est également aussi le respect des principes de bonne gouvernance et également l'exclusion de l'utilisation des enfants au niveau des exploitations du cacao. À ce niveau, nous avons effectivement pris les extraits d'actes de naissance des ouvriers pour les producteurs qui avaient à cette époque des ouvriers et nous sommes assurés que ces ouvriers-là avaient plus de 18 ans.
Grâce au commerce équitable, c'est toute la communauté qui bénéficie de projets sociaux, notamment dans le domaine de la santé ou encore de l'éducation. Nana Assek Kwame II, chef de village de Mbrimbo, assure qu'il aurait été difficile pour eux de réaliser ces projets sans l'intervention de la coopérative.
Je vous assure que la coopérative CEB, qui fait du bio essentiellement dans le village de Mbrimbo, a beaucoup apporté. Vous voyez déjà à l'entrée du village la construction de deux logements de maîtres que nous avons souhaité depuis longtemps et que grâce à la coopérative bio, en accord avec le conseil Café Cacao, vient de nous construire. En même temps, la coopérative nous a aidé à mettre en place, à construire un centre de santé. Et puis, dans le domaine des travaux au niveau des champs, la coopérative a beaucoup aidé la population, les travailleurs, les planteurs, à subvenir à leurs petits besoins, surtout au matériel de travail dans les champs. Ensuite, il faut dire merci à la coopérative parce qu'aujourd'hui, le prix d'achat bon champ de la CEB apporte plus de joie dans le cœur des planteurs que nous sommes aujourd'hui à Mbrimbo.
Jeanne Aya est veuve et mère de 5 enfants. Depuis qu'elle a perdu son mari, elle est seule à faire face aux besoins de sa famille. Productrice de cacao depuis 12 ans, elle affirme avoir constaté un changement depuis qu'elle a intégré la coopérative équitable.
Depuis que je suis à la coopérative, elle m'a apporté beaucoup de choses. Ça fait que maintenant mes enfants vont à l'école sans que je ne passe par quelqu'un d'autre. Avant, j'étais au conventionnel. Bon, ça ne marchait pas fort. Quand je suis venue à la coopérative bio, ça marche. Je gagne ma vie honnêtement. Je m'occupe de mes 5 enfants comme il le faut. Je m'occupe de mes petits-enfants. Et moi-même, je me prends en charge. Je n'ai pas besoin d'intervention. Je ne regrette pas.
En effet, la coopérative vend ses produits à un prix plus élevé, 1250 francs CFA au prix Borchamp contre 1000 francs CFA pour le cacao conventionnel. Ce qui permet aux producteurs de réaliser des projets qu'ils nourrissent depuis longtemps déjà. C'est le cas de Béatrice Nguessan.
La coopérative a permis que nous puissions construire une maison, moi et mon mari. Nous avons payé une grosse moto, tout ça à cause du bio, tout ça là. En tout cas, ça nous a beaucoup rapporté. Moi, personnellement, depuis que je suis dans le bio équitable, je suis très contente parce que vraiment, ils ne m'ont jamais déçu. Ma vie a changé, franchement, ma vie a changé.
Le village de Mbrimbo affiche aujourd'hui une grande fierté pour sa coopérative. Il espère que celle-ci va encourager bien d'autres villages à s'engager sur la voie du commerce équitable pour, disent-ils, le bien de toute une communauté.
Un reportage d'Isidore Quadio. Donc on vient de l'entendre, hein, un prix juste, pas de produits chimiques, pas de déforestation, pas de travail des enfants, un accès à la santé et à l'éducation. Là, Christophe Alliot, on a un exemple de coopérative remarquable.
Ça fait partie de ces exemples qui permettent de montrer que c'est possible, que d'autres modèles, d'autres dynamiques sont faisables sur le terrain. D'abord parce que c'est l'une des premières, voire la seule coopérative certifiée biologique à notre connaissance sur le cacao en Côte d'Ivoire. Ce qui est un gros changement par rapport à la façon dont le cacao est fait de manière traditionnelle dans le pays depuis des décennies. Et puis surtout, il y a deux choses qui sont importantes dans votre reportage. Ça peut paraître anodin, mais une femme qui vient de s'exprimer, qui vient de dire qu'elle est devenue membre de la coopérative. Et là, pour le coup, il y a eu un rapport d'Oxfam il n'y a pas très longtemps qui a montré que c'était l'un des principaux pour frein en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, les femmes ont très rarement le droit ou la possibilité d'accéder à des coopératives, ou alors elles le font entre elles et pas forcément avec le reste de la communauté. Donc c'est déjà un gros changement au niveau local qu'on voit là à l'œuvre. La deuxième chose, c'est qu'on voit l'esprit d'une coopérative qui est une organisation sociale et locale de développement. Et en fait, c'est aussi à travers ça, cette fierté, que ce sont les producteurs par eux-mêmes qui arrivent à enclencher ce développement local, même s'il y a des acheteurs qui sont à l'étranger, notamment en France. C'est d'abord eux et par eux-mêmes qui arrivent à déclencher ça, et ça ne vient pas de l'extérieur. Et ça, je trouve que c'est un des éléments qui, pour nous, est qualitatif au-delà des chiffres, hein, qui est très important à mettre en avant.
Mais est-ce que ce développement local est possible justement parce que le prix est plus élevé ?
Oui, et ce qui est important pour compléter le témoignage qu'on a vu, c'est que ce prix est plus élevé parce qu'il est lié à une chaîne qui est différente. C'est-à-dire que ces produits de cette coopérative, les consommateurs français peuvent le retrouver dans une tablette de chocolat qui indique que le chocolat vient de Côte d'Ivoire, vient de cette coopérative, et tout d'un coup, ce lien avec le consommateur...
Il y a une traçabilité,
et cette valorisation, c'est un cacao biologique, du coup, ça a une toute autre valeur auprès du consommateur, et notamment du consommateur français, on le dit aussi dans l'étude, qui est très attaché aux notions de terroir, et qui, hélas, aujourd'hui, on ne peut que le constater, dans le marché du chocolat, eh bien, on a du mal, en tant que consommateur, à part dans le commerce équitable, à trouver des marques qui valorisent ces notions de terroir et de qualité, alors qu'il y a un vrai potentiel en France, et une vraie attente sur plein d'autres produits, en fait.
Oui, mais alors Sylvain Lee, quand on entend cet exemple de coopérative, on se dit formidable. Maintenant, le commerce équitable, c'est à peine 2% de la production en Côte d'Ivoire. La consommation de plaques de chocolat, on l'a dit, la France est un peu un extraterrestre. Sinon, la plupart des consommateurs des pays mangent en fait des produits chocolatés. Donc le cacao est mélangé au gras, au sucre, et on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc est-ce que c'est possible à plus grande échelle ? On a envie que toutes les coopératives en Côte d'Ivoire soient comme celles que l'on vient d'entendre.
On aurait tendance à penser que oui. En tout cas, ce qui était intéressant dans le cas de notre étude, c'est qu'on a, comme vous le disiez, documenté deux terrains différents que sont la Côte d'Ivoire et le Pérou. Et justement, au Pérou, c'est ce qu'on a constaté. Il y a eu un changement systémique au niveau du pays par rapport, dans un premier temps, au café. Effectivement, historiquement, ces coopératives faisaient du café, qui ont commencé à développer des chaînes de valeur différentes, comme le disait Christophe, qui ont trouvé des marchés plus qualitatifs, qui se sont quand même fortement développés ces 10-15 dernières années. Et puis après, elles ont commencé à faire du cacao. Et aujourd'hui, on voit que le cacao... Alors le Pérou, c'est pas la Côte d'Ivoire, hein, c'est le 9e producteur au monde. Donc néanmoins, on a vu émerger un marché du cacao qualitatif qui permet une meilleure rémunération aux producteurs. Et on a pu documenter dans notre étude plusieurs cas de coopératives qui sont montées en puissance ces 5-10 dernières années, qui ont trouvé leur débouché et qui permettent justement d'enclencher les cercles vertueux où il n'y a plus de sous-rémunération, plus de déforestation, plus de travail des enfants, des coopératives qui sont fortes et qui permettent effectivement de remplir un rôle à la fois social et économique au niveau des communautés locales.
Alors pourquoi n'y a-t-il pas plus de coopératives dans ce style-là en Côte d'Ivoire et ailleurs ? On en parle juste après une petite pause musicale. Samba !
Baya juru tike, samba ye baya juru tike, samba ma baya juru foy tike. Samba ye baya juru tike, samba ye baya juru tike, samba ma baya juru foy tike. So yere ye baya juru la bla. Samba ye baye juru tike, samba ye baye jutike samba ma paye ju poitike so yere paye ju la bla Kasila e mumbila
e ko samba de ngapa ya jurutike
samba e ngapa ya jurutike ai ngapa ya jurutike ki dorojme
e akasokono ke
ha akasokono e otmala muso e frulendo wa ube mafru
e ne frulendo dembe ne bolo
e frulendo dembe bolo munye se chekana nga sokono nga muso yere de ba yere dogoya muso yere de ba yere togotnye ot mala samba ma baya jur politike eh muso aya yere bonya note muso de kapsa ni tnye fembe foro foro muso olu bu yere bonya patta lo dono ye muso togotnye.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous parlons de la filière cacao dans le monde et en Côte d'Ivoire en particulier aujourd'hui à l'occasion de la publication d'une étude réalisée par les deux fondateurs du BASIC, le Bureau d'analyse sociétale et d'information citoyenne, Christophe Alliot et Sylvain Lee qui sont nos invités. Alors nous avons entendu un exemple de coopérative de producteurs ivoiriens, celle de Mbrimo à une heure d'Abidjan qui fonctionne bien, mais c'est malheureusement une exception, hein, comme le commerce équitable reste très peu répandu en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi? Isidore Kouadio a posé la question à Christophe Baucher, il est responsable de projet à AVSF, Agronomes et Vétérinaires sans frontières.
À l'heure actuelle, la production nationale de cacao en Côte d'Ivoire tourne autour de 1,8 million tonnes. Je pense que la production certifiée en commerce équitable dépasse un peu plus les 100 000 tonnes. Donc on voit que ça ne concerne bien évidemment pas l'ensemble de la production. Après, c'est quelque chose qui s'est mis en place relativement récemment. Il y a encore des choses à voir sur la manière dont sont certifiées les coopératives de producteurs de cacao en Côte d'Ivoire, la manière de les accompagner. Et une chose essentielle, c'est que l'État s'est également impliqué à travers des programmes très conséquents comme le 2QC, quantité, qualité, croissance sur le cacao, avec des principes un peu similaires, avec un prix minimum garanti, avec un travail sur tout ce qui est encadrement technique des organisations, respect des normes environnementales. Donc voilà, en termes d'impact direct, ça peut paraître pas très conséquent. Ça représente quand même, à ma connaissance, la certification de 80 organisations de producteurs de cacao, dont certaines sont d'assez grande envergure. Et puis encore une fois, l'idée, c'est à travers ces actions, en faire des actions de référence qui puissent avoir une influence sur le marché conventionnel. Et c'est AVSF, l'ONG pour laquelle je travaille, Agronomes et Vétérinaires sans frontières, a fait des études d'impact, notamment en Amérique latine, où on voit que ce qui a été fait en équitable a eu un impact sur la manière dont fonctionnaient les filières en conventionnel. Donc au-delà des seuls chiffres, combien d'OP, combien de volumes certifiés, il est important de quantifier ces impacts et de pouvoir les mesurer. Alors, un problème de la filière, c'est que la plus grande partie de la production est commercialisée de manière brute, c'est-à-dire que ce sont les fèves de cacao qui sont exportées. C'est environ 65% de la production qui est exportée sous forme de fèves. Donc, la plus-value qui est permise est externalisée. Elle se fait dans les pays du Nord. Donc, c'est une perte importante pour la Côte d'Ivoire. À ma connaissance, il y a une chocolaterie qui est celle de Semois. En dehors de ça, il y a un peu de transformation, mais voilà, le plus gros de la production par sous forme de fèves fermentées, c'est la seule petite transformation qui est faite, mais ce qui fait aussi que la marge obtenue par les producteurs est relativement réduite. Il y a un certain nombre d'organisations de producteurs qui voient le commerce équitable juste pour l'obtention de débouchés. L'impact du commerce équitable sur le développement local, l'impact du commerce équitable sur la structuration des organisations de producteurs échappe véritablement à ces producteurs et c'est vraiment préjudiciable et c'est vraiment dommage parce que, encore une fois, là, vraiment, c'est une des finalités de cette forme de commercialisation. C'est bien évidemment de proposer une forme de commercialisation qui soit intéressante économiquement, mais au-delà, c'est aussi une forme de commercialisation qui va impulser des dynamiques de développement qui vont permettre de viabiliser des systèmes de production, qui vont permettre de maintenir l'agriculture familiale dans des zones parfois difficiles Et on sait l'importance de ces agricultures familiales qui permettent le maintien de services, que ce soit la santé, l'éducation, le désenclavement des zones concernées, et puis un rôle essentiel aussi pour tout ce qui est représentativité de leurs membres, notamment vis-à-vis d'acteurs économiques, mais aussi au niveau des décideurs locaux, en jouant un rôle de plaidoyer.
Oui, il y a besoin de ce rôle de plaidoyer, Christophe Alliot, parce que là, le tableau dressé par Christophe Boucher n'est quand même pas idéal.
Oui, c'est sûr. Comme le disait Christophe, ce qui est intéressant, c'est qu'il faisait le parallèle avec les études d'impact qui ont été faites en Amérique latine et que nous avons pu analyser. Un chiffre, peut-être, qui symbolise ça, c'est 80% de coûts cachés en moins. Pourquoi c'est 80% de coûts cachés en moins? Parce que justement, il y a quelque chose qui a été réussi à plus petite échelle, mais dans quasiment tout le secteur cacaoyer péruvien, c'est celui de déverrouiller la situation dans laquelle ils étaient. C'est celui d'enclencher quelque chose où il y a d'abord pour tous les producteurs un prix stable, à l'avance, garanti par la coopérative, qui est rémunérateur. Du coup, ils savent qu'ils peuvent en vivre et leur famille, ils savent qu'ils peuvent investir dans la parcelle de cacao. Et puis, un travail sur le modèle agroforestier. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus loin encore que le biologique. Ils sont en biologique pour une très grande partie, mais on est là avec tout un système qui est traditionnel, mais qu'ils ont encore développé, où le cacao pousse et pousse mieux, avec plus de rendement, sous ombrage des grands arbres et avec d'autres cultures.
Alors justement, la forêt en Côte d'Ivoire, on le disait avec Sylvain Lee tout à l'heure, hein, 80% de la forêt originelle a disparu en 60 ans à cause, pas seulement à cause du cacao, mais à cause des cultures en général. Est-ce que l'agroforesterie pourrait redémarrer en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est une voie qui vous semble prometteuse?
On a interrogé pas mal d'experts qui nous ont dit qu'en effet, il y avait quelque chose là d'excessivement intéressant à prendre comme voie d'avenir pour le cacao en Côte d'Ivoire.
Alors ça veut dire pour les auditeurs, cultiver le cacao sous le couvert forestier, tout simplement.
C'est ça, exactement, et ressemer mais beaucoup d'arbres pour retrouver cet ombrage. Et puis, par contre, avec une chose importante, c'est de repartir de l'innovation de terrain. C'est-à-dire, il y a des bonnes choses à prendre en Amérique latine, dans plein d'autres endroits, mais il y a certainement un modèle agroforestier à l'ivoirienne dans le cacao à inventer avec les producteurs à la base, pas à venir l'imposer de l'extérieur.
Sylvain Lee ?
Oui, effectivement, ce modèle agroforestier, il est techniquement possible hein, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je crois même qu'à l'origine, il y a très longtemps, il y a eu des modèles agroforestiers sur des cultures comme ça de rente, c'est-à-dire café au cacao au tout début. L'agroforesterie, c'est important parce que effectivement, ça permet d'améliorer les rendements, de préserver les sols aussi. Il y a aussi la possibilité d'avoir des cultures vivrières dans les plantations de cacao. Il y a aussi des synergies entre les différentes essences sur place. Donc c'est plein d'avantages de services qu'on appelle aujourd'hui services écosystémiques, qui sont difficilement valorisables quantitativement, mais qui pour autant existent. Enfin, beaucoup d'experts aujourd'hui en agriculture le mentionnent, le défendent, ce modèle-là. Donc effectivement, ça pourrait aussi être une opportunité pour la Côte d'Ivoire dans ce sens-là, quoi.
Christophe Alliot.
Très rapidement un point. La Côte d'Ivoire a une particularité a priori, si on ne se trompe pas de ce qu'on nous a dit, c'est que les producteurs ne sont pas propriétaires de leurs arbres. Et là, pour le coup, c'est un changement dans nos recommandations qui est un changement potentiellement de législation qui nous semble incontournable. C'est que ce qui fait que ce modèle est valorisé ailleurs, c'est que les producteurs sont propriétaires de tout ce qu'il y a sur leur parcelle, y compris les arbres, et que les arbres, c'est aussi une rente pour les vieux jours. C'est aussi, quand on abat un arbre, on le fait petit à petit dans beaucoup de zones du monde, ça permet de faire une rentrée d'argent nécessaire pour la retraite et autres. Et c'est tout un système à remettre en place, mais là, il y a peut-être une barrière législative importante en Côte d'Ivoire.
Alors, est-ce que vous avez prévu d'aller présenter les recommandations de votre étude en Côte d'Ivoire?
Pas pour l'instant, mais ce serait effectivement, je pense, une opportunité de pouvoir échanger avec les producteurs sur la base de ce qu'on a réussi à agréger dans cette étude-là, à travailler avec les recommandations, parce qu'encore une fois, les limites de l'exercice, c'est que ça reste une étude faite ici, même si on a eu des entretiens avec des gens sur le terrain. Ben, on reste un bureau d'analyse de France avec des recommandations dans notre contexte et je pense que là encore, il y a une richesse supplémentaire à générer en échangeant davantage avec les producteurs sur place.
Bah écoutez, cette émission pourra peut-être servir à cela. Une dernière question. Si on vous écoute bien, finalement, il faudrait que les producteurs mettent plus en valeur leur terroir et plus de traçabilité, etc. Alors, ça semble formidable quand on mange une plaque de chocolat où il y a écrit, par exemple, Côte d'Ivoire dessus. On sait d'où ça vient. Limite, on a la photo du producteur. Mais est-ce que les grands groupes qui utilisent des fèves en vrac et uniquement de la poudre chocolatée vont vraiment dans ce sens, et c'est là où on touche un changement d'échelle.
Alors, est-ce qu'ils vont dans ce sens-là actuellement sur le cacao? Je ne sais pas et je ne pense pas. Par contre, on a pu observer sur d'autres filières comme le café, par exemple, des grandes multinationales qui ont commencé à initier des démarches dans ce sens-là, qui ont permis à la fois une meilleure valorisation du produit, des producteurs, des techniques de transformation entre le produit fini et les producteurs, et qui ont initié une tendance. Hein, je pense à des cafés d'origine qui n'étaient pas forcément valorisants.
Ils ne sont pas très valorisants.
Par exemple,
ils ne sont pas très valables sur leur système de durabilité, mais c'est vrai que sur la traçabilité des producteurs,
ils ont apporté cette tendance de valorisation de cru, qui implique aussi derrière une meilleure valorisation des producteurs et des terroirs. Comme on peut le voir aussi sur d'autres filières en France, sur d'autres produits. On a regardé dans le cadre d'études, par exemple, les filières lait et fromage. On voit que les modèles AOC-IGP sont aussi des modèles qui permettent justement de préserver des bonnes conditions sociales et environnementales sur les lieux de production, dans un contexte où ces conditions environnementales et sociales, elles sont souvent mises à rude épreuve, pour preuve les récentes crises du lait ou dans l'élevage en France.
Et puis à chacun d'entre nous de choisir aussi de façon responsable ce que l'on achète et ce que l'on mange. C'est vrai que regarder la traçabilité des produits que l'on achète, ça peut être aussi une discipline qui peut changer la donne. Merci à vous deux d'être venus dans le studio 43 de RFI. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission, et Isidore Quadio pour ses reportages. Votre étude est consultable sur votre site lebasique.com et elle est en ligne sur la page de l'émission www.rfi.fr. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.